Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Oui, bonjour à tous le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 14 octobre 2014, en direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, épidémie d'Ebola aux États-Unis, les responsables de la santé appellent les hôpitaux à revoir leurs approches dans le traitement des cas de la maladie. En RCA, le président du Conseil national de transition, Alexandre Nguende, somme le gouvernement de s'expliquer sur la gestion des fonds angolais.
En cas d'un nouveau refus de répondre à cette obligation constitutionnelle, le Conseil national de transition prendra ses responsabilités.
Voilà, et voici donc la réaction du gouvernement.
On est en train de ramener la crise que nous traversons à la seule question du don angolais. Comme si c'est le don angolais qui a créé les événements de ces derniers 6 jours.
Au Cameroun, Paul Biya promet une éradication totale de Boko Haram. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont multiplié les frappes aériennes hier sur les objectifs de l'État islamique à proximité de la ville de Kobané en Syrie. Et ne manquez pas la musique de Roger Muntu et le sport en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
L'épidémie d'Ebola continue d'inquiéter la communauté internationale. La directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, a parlé hier de menaces pour les gouvernements et les sociétés en Afrique de l'Ouest. Ici, aux États-Unis, les responsables de la santé appellent les hôpitaux à repenser leur approche dans le traitement des cas d'Ebola. Les précisions d'Eddie Isango.
S'exprimant au cours d'une conférence sur la santé aux Philippines, le docteur Margaret Chan a déclaré qu'elle n'a jamais vu une maladie infectieuse contribuer si fortement à l'échec potentiel d'un État. Elle a averti que le nombre de cas augmente de façon exponentielle au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. L'épidémie montre comment le monde est mal préparé à une urgence de santé publique grave et durable, a souligné le docteur Chan. L'Agence de santé publique du Canada a annoncé hier que la première phase des essais cliniques d'un vaccin expérimental contre le virus Ebola a commencé. Ce vaccin est promoteur dans la recherche animale et sera testé à l'Institut Walter Reed de l'armée américaine dans l'État de Maryland. Également, les directeurs des centres américains de détection et de prévention des maladies d'Atlanta, Tom Frieden, a exhorté les hôpitaux américains à renforcer la surveillance des patients venant des 3 pays les plus touchés présentant des symptômes d'Ebola. Il a aussi appelé les autorités à étudier comment une infirmière de Dallas est devenue la première victime à contracter la maladie aux États-Unis.
L'éradication totale de Boko Haram, c'est ce que promet Paul Biya, le président camerounais, au groupe islamiste nigérien, soupçonné d'être à l'origine de la capture de 27 otages libérés au cours du week-end. Le chef de l'État a fait cette annonce lors d'une cérémonie de réception au palais présidentiel de Yaoundé des 27 ex-otages, dont 10 Chinois. Dans la partie magazine, nous reviendrons sur la libération de ces otages.
En République centrafricaine, après les violences meurtrières de ces derniers jours, la vie a repris timidement son cours normal hier à Bangui. Lors d'une rencontre avec le ministre centrafricain des Affaires étrangères, le chef de la MINUSCA, le général Babacar Gaye, a souligné que seuls les Centrafricains peuvent sortir leur pays du chaos. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Malgré la reprise apparente des activités, plusieurs artères de Bangui, la capitale centrafricaine, étaient encore paralysées ce lundi. Quelques taxis et bus ont repris service sur les avenues de l'Indépendance, Martyr et Barthélemy Boganda. Au centre-ville, par exemple, le marché central était opérationnel. Cependant, dans les zones les plus affectées, la tension est encore palpable et plusieurs cas de braquage de motos ont été rapportés. Au cours d'une rencontre avec Toussaint Kongo-Doudou, ministre centrafricain des Affaires étrangères, le chef de la MINUSCA, le général Babacar Gaye, a souligné que seuls les Centrafricains peuvent remédier à cette crise, car, a-t-il dit, les Nations Unies ne sont là que pour les accompagner.
Ce n'est quand même pas la faute des Nations Unies si dans cette ville, chaque fois qu'on attrape quelqu'un, on le tue et on le dépece. Il y a donc un problème de réconciliation, il y a un problème de cohabitation entre les communautés, il y a un problème de sursaut dans la population, dans les élites pour remettre ce pays sur les rails. Et ça, ce sont les peuples centrafricains qui doivent le faire.
Signalons par ailleurs que les corps des 2 soldats de la MINUSCA morts la semaine dernière à Bangui ont été rapatriés ce lundi dans leurs pays respectifs. Il s'agit du caporal-chef Sepoy Fahad Iftikhar du contingent pakistanais et du caporal Jean-Paul Nizigihimana du Burundi.
La présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, va entamer ce mardi une série de rencontres avec les forces vives de la nation visant à mettre fin au désordre que connaît le pays. Selon la présidence, Mme Samba-Panza recevra des délégations pendant une demi-heure chacune, chaque jour à 10h de ce mardi, donc à vendredi, selon le programme diffusé à la radio d'État, sans autre précision. Par ailleurs, Ferdinand Nguende, le président du CNT, le Parlement provisoire, a critiqué le Premier ministre Mamadou Camara au sujet de l'affaire des 10 millions de dollars offerts par l'Angola. Ferdinand Nguende.
Le Conseil national de transition a le regret de constater ce jour que non seulement le gouvernement trouve des raisons peu sérieuses pour ne pas répondre à cette interpellation, mais encore mieux. Il ne veut manifestement pas rendre compte de la gestion du don angolais devant le peuple. Une nouvelle date sera proposée en cas d'un nouveau refus de répondre à cette obligation constitutionnelle. Le Conseil national de transition prendra ses responsabilités.
On écoute maintenant la réaction du gouvernement centrafricain. Gaston Makuzangba est le porte-parole du gouvernement.
On est en train de ramener la crise que nous traversons à la seule question du don angolais. Comme si c'est le don angolais qui a créé les événements de ces derniers 6 jours. C'est que compte tenu de la situation sécuritaire volatile et de la persistance des agissements des ennemis de la paix, qu'il fallait donner du temps au temps pour aller devant le CNT. Qui m'a même laissé dire qu'il serait prêt à aller devant le CNT ce mercredi.
Le Niger a approuvé la convention d'exploitation de 2 mines d'uranium situées dans le nord du pays, signée en mai avec le groupe français Areva. Cette signature de convention devait intervenir au plus tard le 30 juin, mais a été retardée pour des raisons non précisées. La conclusion d'un tel accord est cruciale pour Areva et la France, où 75% de l'électricité produite est d'origine nucléaire. Il s'agit pour le géant du nucléaire français de maintenir au meilleur coût possible sa présence au Niger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont multiplié les frappes aériennes ce lundi sur les objectifs de l'État islamique à proximité de la ville de Kobani en Syrie. Des écrans de fumée pouvaient être aperçus au-dessus de Kobani depuis la Turquie. Le commandement militaire américain a déclaré que des avions de combat américains et saoudiens ont réalisé des sorties au sud-ouest et nord-est de Kobani.
Le secrétaire d'État américain John Kerry rencontre aujourd'hui à Paris le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Camille Grosdidier.
En tête de l'ordre du jour, l'Ukraine et le retrait des troupes russes de la frontière en prélude au pourparlers prévu cette semaine entre le président russe Vladimir Poutine et les dirigeants européens et ukrainiens sur la fin du conflit dans l'est de l'Ukraine. Messieurs Kerry et Lavrov discuteront également de la lutte contre l'État islamique en Syrie et en Irak. La Russie a critiqué les frappes aériennes menées par la coalition dirigée par les États-Unis en Syrie. Certes, on ne s'attend pas à ce que la Russie rejoigne la coalition, mais elle pourrait être en mesure de fournir des renseignements, en particulier en ce qui concerne les miliciens tchétchènes qui ont rejoint l'État islamique. Finalement, les deux hommes d'État discuteront de l'Iran et des négociations sur son programme nucléaire. D'autant que M. Kerry rencontre à Vienne mercredi le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif et la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Catherine Ashton, pour un nouveau cycle de négociations sur ce sujet.
Le Parlement britannique s'est prononcé hier soir pour la reconnaissance d'un État palestinien dans une motion appelant le gouvernement à en faire autant. Ce vote des députés ne va rien changer dans l'immédiat, puisqu'il revêt un caractère purement symbolique. Au total, l'autorité palestinienne se prévaut de la reconnaissance de 134 pays, dont le Brésil et l'Argentine.
L'Église catholique signale qu'elle pourrait bientôt assouplir sa position intransigeante sur l'homosexualité et la sainteté du mariage. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Le synode des évêques réuni à Rome par le pape François a suggéré hier que l'Église adopte une perspective plus positive concernant les couples homosexuels, les couples non mariés et les mariages civils de personnes divorcées. Les prélats ont présenté leur point de vue dans un rapport intérimaire alors qu'ils examinent les questions relatives à la famille dans la société contemporaine. Les homosexuels ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne, ont-ils souligné en se demandant si, avec 1,2 milliard de fidèles dans le monde, l'Église serait capable d'accueillir ces personnes et de leur garantir un espace fraternel dans les communautés. Les évêques ont toutefois défendu le mariage traditionnel entre un homme et une femme. Réagissant à cet apparent changement d'attitude des hauts représentants de l'Église catholique, un expert du Vatican l'a qualifié de tremblement de terre pastoral. L'Église catholique a longtemps condamné les couples de même sexe, les rapports sexuels hors mariage et le divorce.
Voilà, 6h10 en temps universel, 2h10 ici à Washington. C'est tout donc pour le journal. Merci à Anne Albertson. Retour ce matin sur la libération de 27 otages de Boko Haram au Cameroun. Il s'agit de 10 Chinois et 17 Camerounais. Et les autorités à Yaoundé et l'ambassade de la Chine au Cameroun affirment que ces 27 personnes libérées le week-end dernier ont pu passer 2 jours avec leurs proches. Après plusieurs mois de captivité, notre correspondant Moki Edwin Kinzeka est allé les voir. Écoutez son reportage présenté ici par Chérubin Dorsil.
Kolofata, dans l'extrême nord du Cameroun. Les habitants se rassemblent à la nouvelle de la libération de leur chef, leader religieux et maire, Seyni Boukar. Il a été remis en liberté en même temps que la femme du vice-premier ministre camerounais Amadou Ali et 15 autres membres du village. La vie à Kolofata était pratiquement au point mort depuis leur enlèvement par les combattants de Boko Haram, déclare Armidou Boukar, frère du maire libéré.
Comme le Lamido est libre, nous savons qu'il va essayer de nous gérer un peu la situation ici. Par exemple, celui de notre scolarité. On n'a pas de professeur ici. Comme l'année passée, c'était lui qui se battait pour nous amener nos professeurs. Quand il n'y a pas d'électricité ici, il se bat pour remettre l'électricité.
Quant à Abba Souleymanou, un autre résident de Kolofata, il remercie Dieu d'avoir ramené tous les 27 otages sains et saufs après près de 3 mois en captivité.
Tout le monde a prié pour lui et pour les otages qui sont rentrés. On remercie le chef de l'État et tout le monde qui a lutté pour qu'on libère nos otages.
Lors du rapt, le 27 juillet dernier, 15 personnes ont trouvé la mort. Les ravisseurs ont lancé 2 attaques avant de capturer leur proie et s'enfuir. L'un des otages libérés le week-end écoulé, Abdourahmane Seyni, a été blessé par balle à la main. Il a dit à la Voix de l'Amérique qu'on les a torturés et forcés de manger quoi que ce soit qui leur était offert. Parfois, ils passaient plusieurs jours sans eau.
La vie, c'était un enfer. Je vois les gens qui marchent avec l'arme et l'arme blanche, de gauche à droite. Et socialement, on est vraiment torturés. Nous ne respirons pas en paix, franchement. Et c'est les gens qui disent qu'ils prient beaucoup qui nous font. Vraiment, la liberté, c'est une bonne chose. Il faut avoir ta liberté. Je ne prie pas pour que ça nous arrive comme ça.
A-t-il aperçu les quelques 200 jeunes filles enlevées en avril par la secte islamiste? Non, dit Abdourahmane.
On met les hommes à part et les femmes à part. Vraiment, je ne sais pas là où j'étais. On était vraiment dans un brousse et c'était terrible.
Selon le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakari, les 27 ex-otages, y compris les 10 travailleurs chinois, ont été remis à des soldats camerounais à Kolofata, près de la frontière nigériane, avant d'être transférés à Yaoundé, où quelques-uns d'entre eux reçoivent des soins médicaux.
La Voix de l'Amérique au Cameroun, sur Océan FM, à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham, à Bafoussam.
Voilà, en marge des réunions annuelles Banque mondiale, Fonds monétaire international ici à Washington, les pays dits du G5 Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, ont discuté des mesures à prendre pour renforcer la sécurité dans le Sahel. Il s'agit également de mettre fin à de multitudes de trafics qui coûtent cher au trésor de ces États. Au micro de Kadiatou Traoré, la ministre malienne de l'économie et des finances, Boiré Fili Sissoko, évoque les défis que doit relever cette union.
On a tous effectivement au niveau de la région Sahel intérêt à faire en sorte que l'initiative du G5 soit mieux connue. Parce que comme vous savez, il y a eu toute une foison d'initiatives pour le Sahel ces dernières années. Et donc un chevauchement d'attribution et de vision qui complique un peu les choses. Donc les pays qui sont en fait, nous on les considère comme les pays de la ligne de front, c'est-à-dire ceux qui font front directement aux zones de conflit et au désert par rapport justement à cette trafic illicite et autres activités qui se déroulent dans la zone. Donc ça va de la Mauritanie au Mali, au Niger, en passant un peu par le Gourma, le Burkina, et en remontant au niveau du Tchad. Donc ce sont ces 5 pays qui se sont mis ensemble pour créer le G5. Et le G5 a deux vocations. Au point de vue sécuritaire, il y a des réunions statutaires qui sont prévues pour les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité pour mieux coordonner un peu la surveillance des frontières sur ce volet. Mais il y a un volet qui pour nous est central, c'est le volet un peu coordination de toutes les ressources qui vont être dirigées sur nos différents pays. Et là, on a mis des équipes d'experts pour travailler déjà à un portefeuille de projets, projets régionaux et projets nationaux, qui vont faire l'objet de financements par des partenaires au développement qui déjà sont engagés à nos côtés.
Cette zone a été beaucoup marquée ces dernières années par le trafic de drogue illicite et puis des armes et le terrorisme aussi qui est là. Pensez-vous que le Mali sera à mesure de travailler dans ce groupe tout en mettant des synergies et puis des actions concrètes pour lutter contre ce fléau?
La vulnérabilité au niveau de la lisière du Sahara est telle qu'un seul pays ne peut rien faire. Et les partenaires qui sont là aujourd'hui au niveau de l'AMUNISMAH et d'autres forces Serval maintenant qui a pris un autre nom, qui sont là pour nous aider à endiguer le fléau, ne seront pas éternellement là. Donc il est important que nous-mêmes qui sommes les autochtones de la zone, qu'on s'organise et puis qu'on développe quand même une certaine synergie entre nos forces armées de sécurité pour qu'au départ de ces fronts-là, de ces troupes-là, nous puissions prendre le relais. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Donc en fait, le G5, c'est vraiment aller sur les deux volets. Sécurisation, stabilisation de la zone, meilleure surveillance des frontières et parallèlement aussi développement économique et social.
Sur ça, est-ce que vous avez un message clé à faire passer à la population du Nord?
Moi, je sais dire à la population du Nord que le gouvernement leur est reconnaissant vraiment de leur compréhension et d'avoir fait preuve de patience pendant tout ce temps-là. Ce qu'ils ont vécu n'est pas facile. Donc, dire que le gouvernement mettra tout ce qui est en son pouvoir pour vraiment stabiliser la région, pour que très rapidement chacun puisse reprendre ses activités.
Voilà, c'était Boiré Fili Sissoko, ministre malienne de l'économie et des finances.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En Guinée, suite au massacre de Womé le 16 septembre dernier, une mission d'Avocats sans frontières Guinée s'est récemment rendue sur les lieux pour mener des enquêtes. Les membres de la dite mission y ont été arrêtés pendant 5 heures avant d'être libérés et refoulés. Georges Léonard Sagnon a recueilli la réaction de Dr CC Victorien Théa, avocat au barreau de Conakry et représentant régional de l'ONG Womé.
Nous avons eu des échos par rapport à ce qui se passait en matière de violation des droits de l'homme en Womé. Donc, notre ONG Avocats sans frontières Guinée a entrepris une démarche allant dans le sens de vérifier la véracité des rumeurs selon lesquelles Womé, après le massacre, serait érigé en caserne militaire. C'est ainsi qu'une délégation est venue accompagnée de deux journalistes. Nous sommes allés sur le terrain. Et avant de partir, j'étais venu dans notre mission. Nous avons fait le tour sur le gouverneur. Et sur le gouvernement, nous avons eu sa version des faits. Après, nous sommes allés voir le préfet aussi, là, il y a eu sa version des faits. Après, nous sommes allés voir le procureur de la République. Et le gouverneur et le préfet ont respectivement jugé lors de mission de la délégation Avocats sans frontières, ainsi que lors de mission des deux journalistes qui accompagnaient notre délégation. Si nous voulons nous constituer en partie civile ou à la défense, il faudrait qu'on se rende à Womé et voir effectivement le lieu et les conditions dans lesquelles ce massacre a été perpétré. Et aussi, si nous voulons travailler dans le sens de l'observation et de la protection et de la promotion des droits de l'homme, voir est-ce qu'après les massacres de Womé, la population est en train de mener une vie normale.
Alors, que s'est-il passé?
Le 4 octobre dernier, la mission s'est effectivement rendue à Womé. Oui, arrivée à Womé, la mission a fait aussi toujours viser son ordre de mission par le capitaine qui était le commandant du contingent militaire qui est actuellement là-bas, capitaine Moussa Mouziketa. Et qui nous a reçu et qui a visé lors de mission. Et après 10 minutes d'interview avec lui, il nous a même permis de filmer son interview. Et il nous a dit, après avoir visé, que nous étions libres de mener la mission. C'est ainsi qu'il nous a conduit au niveau de la force tactique, là où les personnes assassinées, justement, ont été enfouies. Après, il nous a conduit vers le centre du village où nous avons rencontré le contingent de la gendarmerie qui a demandé à ce qu'on appelle le commandant des jeunes. Et le commandant des jeunes a donné l'ordre d'arrêter notre mission. Ils nous ont détenus pendant plus de 5 heures, de midi jusqu'à 17 heures. Et ils nous ont entendus sur TV comme si nous étions des délinquants. Ils nous ont dépouillés de nos appareils. Après, ils ont dit de retenir les appareils, mais en retirant les cartes mémoire. Et ma tablette a été détenue par eux. Le dimanche 5, arrivé à Jérécourt, nous avons informé le gouverneur des faits et nous avons demandé de faire tout pour connaître nos appareils. C'est ainsi que le lundi, à 14h, le gouverneur m'a appelé en m'invitant de passer avec nos amis et récupérer les appareils et les cartes mémoire. Nous sommes rendus à 15h sur lui. La restitution a été faite et nous avons restitué les appareils saisis, mais tout en dépensant toutes les photos prises à nos mains.
Que comptez-vous faire maintenant?
On avait deux objectifs. Premièrement, c'était nous rendre sur le site, voir la scène du crime. Et de l'autre côté, c'était aussi de voir est-ce qu'en matière d'observation des droits de l'homme, devant un tel fait, je pense qu'il y a des anciennes pratiques auxquelles nos forces de l'ordre sont habituées. Est-ce que cela se répète? Le village est vidé de son contenu, aucune personne là-bas, il n'y a plus d'animaux domestiques.
Docteur Cécé Victorien Théa, avocat au barreau de Conakry, représentant régional de l'ONG Womé.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Voilà, dialogue de sourds entre la Turquie et les États-Unis. Ankara nie avoir accepté de mettre ses bases militaires à la disposition des forces américaines dans leur campagne contre les militants de l'État islamique. Ces bases sont considérées comme la clé de la stratégie adoptée par la coalition internationale contre le groupe djihadiste qui gagne du terrain en Syrie et en Irak. Jean-Roger Billon.
Une source dans le cabinet du premier ministre Ahmed Davutoglu dément qu'un terrain d'entente a été trouvé avec les États-Unis pour l'utilisation des bases militaires de la Turquie par les forces de la coalition. Mais les mêmes sources indiquent que les négociations se poursuivent. Pour Semih Idiz, chroniqueur diplomatique au journal Taraf, l'apparente rupture dans les communications entre Ankara et Washington montre le caractère sensible de la question au sein de l'AKP, le parti au pouvoir en Turquie.
Quand vous agissez avec les États-Unis ou l'Occident en général, il y a des questions très délicates en ce qui concerne la base du parti au pouvoir en Turquie en ce moment, surtout si l'opération conjointe est contre un pays islamique ou un groupe islamique.
La pomme de discorde est Incirlik, une des plus grandes bases aériennes militaires de la région. Les forces américaines ont utilisé la base turque depuis la Seconde Guerre mondiale, mais les analystes affirment que leur utilisation pour les opérations militaires de Washington sont strictement contrôlées et toujours controversées. Selon le journaliste Kadri Goursel, cette base est capitale parce qu'elle se situe seulement à 150 km de la frontière syrienne.
Ce n'est ni facile ni économiquement viable de frapper Isil à partir de bases aériennes dans le Golfe ou d'un navire de guerre avec près de 8 heures de vol ou de faire deux fois le ravitaillement en vol juste pour attaquer un véhicule blindé ou même une camionnette. Un appui aérien proche, c'est ce qui est nécessaire. Il suffit de prendre l'exemple de Kobané. Ça peut être gagné juste par l'utilisation de la base aérienne d'Incirlik.
Une délégation de haut niveau de responsables militaires américains est attendue en Turquie cette semaine pour discuter de la coopération dans la lutte contre l'État islamique. L'utilisation d'Incirlik devrait être à l'ordre du jour. Ankara a accepté de former les forces syriennes pour lutter contre les djihadistes, mais Semih Idiz pense que Washington pourrait être déçu au sujet d'Incirlik.
Je ne pense pas qu'il y aura des vols directs d'Incirlik pour aller bombarder. Je pense que le soutien devrait être d'ordre logistique à la fin.
Toutefois, les observateurs disent qu'Ankara est confronté à la pression croissante des alliés occidentaux sur son inertie contre les djihadistes. La Turquie se refuse à confirmer si son espace aérien devrait être utilisé par les forces de la coalition. Kadri Goursel prévient que la décision sur l'utilisation d'Incirlik pourrait avoir de lourdes conséquences.
L'ouverture de la base aérienne d'Incirlik pour les frappes aériennes sur Isil est le facteur clé pour déterminer si la Turquie est un membre à part entière de la coalition ou pas.
Le gouvernement turc insiste pour dire que la coopération devrait tenir surtout à la création de zones de refuge en Syrie, protégées par une zone d'exclusion aérienne avec l'élargissement de la guerre contre l'État islamique en y incluant le régime syrien.
Vous écoutez Le Monde, aujourd'hui c'est l'heure des sports et j'accueille Timothée Donamaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Bagassi.
Alors on commence par du football. Les hostilités reprennent aujourd'hui à la 9e CAN TN Mobile en Namibie.
On aura droit à Zambie-Nigeria, Côte d'Ivoire-Namibie, suivi demain de Cameroun-Algérie et de Ghana-Afrique du Sud. En première journée, dans le groupe A, la Zambie a été défaite par la Namibie 2-0 et le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire 4-2. Dans le groupe B, le Cameroun a battu l'Afrique du Sud 1-0, le même score par lequel l'Algérie s'est imposée face au Ghana.
Et puis, championnat d'Europe des Nations 2016, plusieurs matchs de qualification ont été joués hier soir.
L'Islande a poursuivi sa série de succès en battant les Pays-Bas 2-0. La République tchèque a défait le Kazakhstan 4-2. Courte victoire de l'Italie contre Malte 1-0. Victoire de la Norvège contre la Bulgarie 2-1. Et puis, carton de la Croatie à l'Azerbaïdjan 6-0.
L'Américain Michael Garcia, chargé de la FIFA, d'enquêter au sujet de l'attribution des mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar, a de nouveau réclamé la publication de son rapport.
Ce document qu'il a remis en septembre dernier à la commission d'éthique de la FIFA n'a toujours pas été rendu public. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, estime que sa publication pourrait compromettre la confidentialité des témoignages. Garcia, que cite l'AFP, a dit hier à Londres que ce type de procédure pourrait être approprié dans le cas d'un service de sécurité, mais non dans le cas d'une procédure de conformité éthique d'une institution sportive internationale.
On passe à la page musicale avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi, ce matin on écoute un morceau que vous aimez bien, un morceau qui marche bien en ce moment, un très bon son je dois le dire, que certains classeront en Kuduro et d'autres en Afro House. On écoute le groupe Ossetroya avec le titre Bella.
Bella, 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 hein, Bella, 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 Bella,
Ossetroya est une jeune formation qui nous vient d'Angola et qui transporte un nouveau concept qui fait déjà le buzz sur le web et les chaînes câblées. Je reviens d'Afrique et je peux vous le dire, j'en étais témoin.
Donc vous allez nous apprendre à danser Bella, n'est-ce pas? Mais une danse, on doit le dire Bagassi, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui vous tient en haleine au premier regard. Qui a dit qu'en Angola les concepts n'existaient pas? Bagassi, en tout cas, moi j'apprécie.
Ossetroya, Bella, merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Bagassi, bonne journée à vous. Et on doit dire merci à nos auditeurs de Kananga en RDC pour leur fidélité à la VOA.
Roger Muntu que vous retrouvez dans RM Show chaque jour à partir de 20h temps universel. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est tout donc pour cette édition. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. Passez une excellente journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.